Virtuellement pour cette prédication dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Nous avons poursuivi toute la première épître et maintenant c'est la deuxième épître, c'est la deuxième prédication dans cette épître. Il y a encore 2 autres à suivre. Et c'est très approprié pour nous d'y être, je pense, pendant ces moments. Dans un sens décourageant. J'étais découragé, je l'avoue, vendredi, d'apprendre que le confinement continue jusqu'au moins début février. Pas de rassemblement donc, de notre église, on se pose jusque-là et peut-être même après avoir cela. C'est long, cette période. C'est un défi pour nous, pendant cette période, de maintenir un peu notre joie dans le Seigneur. Mais dans un sens, c'est une occasion pour nous de travailler notre joie dans le Seigneur et donc de creuser ensemble sa parole dimanche après dimanche. C'est un fondement pour un croyant en Christ. Nous en avons besoin. Et donc, je vous invite à prier avec moi que nous puissions, comme dit le psalmiste, nous avons lu ceci dans le psaume 119 il n'y a pas longtemps, comme dit le psalmiste, que nous puissions faire de la loi de l'Éternel nos délices. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche, disait le psalmiste, que 1000 objets d'or et d'argent. Que cela soit le cas pour nous, chers amis. Alors, prions avant d'aller plus loin. Oui, Seigneur, nous voulons te demander de nous aider une fois de plus ce matin d'apprendre tes prescriptions. D'être ceux qui, même si nous sommes affligés pour le moment, qui se servent de cette affliction pour dépendre davantage de toi et non pas sur le monde et tout ce que le monde peut nous offrir. Mieux vaut, nous voulons que cela soit le cas pour nous, Seigneur, la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Sois avec nous, nous te prions. Amen. Alors les amis, je suppose que la plupart d'entre nous, nous savons ce que c'est l'univers cinématographique de Marvel. Marvel, on dit en anglais. Les films de cet univers ont bien connu, ils ont pour personnage central les Avengers, des divers super-héros tels que Iron Man ou Captain America, ou je pense qu'on parfois on dit juste Captain America, même en français, Thor, Hulk. Ces monstres, ces héros pour les jeunes d'aujourd'hui. Hawkeye, celui avec son arc, je l'aime bien celui-là. Ils sont engagés tous ceux-là dans une bataille immense pour sauvegarder, protéger le bien de l'univers. Ils luttent contre le mal. Incarné dans les derniers films par un certain Thanos. Et le dernier film s'intitulait Endgame, ou phase finale. C'est le film le plus lucratif de l'histoire du cinéma, avec des recettes qui s'approchent à 3 milliards de dollars. C'est immense, c'est impressionnant, ce monde, cet univers Marvel. Et le film, ce dernier film, termine avec un dénouement apocalyptique. À la fin du film précédent, ce mauvais Thanos a réussi d'un claquement de doigts à pulvériser la moitié de la population de l'univers pour trouver un peu d'harmonie, il voulait. Et donc, lors de cette dernière bataille de la phase finale, comprenons donc l'ensemble des caractères de Marvel, il est encore à un claquement de doigts de près à exterminer tous ceux qui vivent. Tout semble être perdu, mais ensuite Tony Stark, alias Iron Man, arrache lui les pierres d'infinité et au prix de sa propre vie, par un autre claquement de doigts, il détruit Thanos, son armée, et il restaure la paix. Oui, forcément, avec autant d'argent mis dans un tel film, c'est interpellant, c'est puissant, c'est émouvant. Et dans un sens, ce film, et d'autres films de ce genre, facilitent la compréhension des récits bibliques qui nous parlent de la bataille cosmique dont nous avons affaire lorsqu'il est question de la fin du monde, du retour de Jésus-Christ. Nous nous trouvons dans l'un de ces récits ce matin, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Donc, merci d'avoir ce texte sous les yeux pour la suite. Et comme vous l'avez entendu, c'est un passage rempli de concepts et de personnes énigmatiques. C'est parfois un peu déconcertant, n'est-ce pas, d'être plongé dans un récit qui parle, entre autres, de l'apostasie, de l'homme impie, de celui qui le retient, de la destruction finale de l'Antichrist, des prodiges mensongers, de l'avènement de Jésus-Christ. Mais dans un sens, grâce à Marvel, à notre époque, c'est un peu plus facile pour nous de se projeter dans un monde où il y a un combat apocalyptique entre le bien et le mal. C'est un peu plus facile pour nous d'apprécier les réalités cosmiques sur une échelle juste plus grande, plus large que nos vies ici sur Terre. Mais bien sûr, il y a aussi un danger avec ce genre de film. C'est qu'on fait amalgame entre la fiction et la réalité. Et 2 Thessaloniciens nous parlent de la réalité. Une réalité encore à venir, mais validée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Beaucoup de ce que nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 a pour base l'enseignement de Jésus dans l'évangile de Matthieu, ou l'évangile de Marc, le chapitre 24 de Matthieu, le chapitre 13 de Marc, où Jésus, lui, a abordé le même sujet. Et donc, cette réalité dont parlait Jésus, dont parle l'apôtre Paul, est une réalité super importante pour nous, encore aujourd'hui, à capter. Super important, j'ai envie aussi de dire, à vous les jeunes chrétiens, ou juste les jeunes dans notre Église. Peut-être vous vous dites, mais bon, tous ces détails, ça me dépasse. Pourquoi tout cela? Pourquoi il faut une prédication ici, là-dessus? Mais regardez au verset 5, parce que là, Paul, il dit, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous ?» À quel moment est-ce que Paul, il était auprès d'eux? Mais il était auprès d'eux tout au début de leur foi chrétienne. Il était chez eux rien que pour 3 ou 4 semaines. Pendant ce temps, ces jeunes se sont convertis à Christ, ont démarré dans la foi chrétienne. Mais Paul, dans ces 3-4 semaines, trouvait le temps néanmoins de les instruire au sujet du retour de Christ. Donc, l'eschatologie, c'est-à-dire la doctrine des choses qui vont arriver à la fin, fait partie des fondements suffisamment importants pour les soulever, pour les prêcher, pour les apprendre, même si on est tout jeune dans la foi chrétienne. Donc, j'espère que vous allez bien écouter, même si, oui, il y a des détails qui nous dépassent. Pourquoi c'est important? Pourquoi il faut comprendre ces choses? Mais nous savons que les jeunes chrétiens à Thessalonique, ils étaient en train de souffrir pour leur foi. Ils étaient persécutés pour le simple fait de confesser le nom de Christ, de suivre Jésus-Christ. Et Jésus, lui, lorsqu'il parlait de ces choses, et donc maintenant Paul aussi, avait parlé de fortes souffrances qui précéderont le retour de Jésus-Christ. Et nous voici, donc ces Thessaloniciens déduisent de ce qui leur arrive. C'est la fin des temps. Ils croient, selon la fin du verset 2 ici, que le jour du Seigneur était déjà là. Bon, nous devons avouer que nous ne savons pas comment ils croyaient que le jour du Seigneur était déjà là, que le Seigneur était déjà là. On trouve ça, dans un certain sens, un peu bizarre. Et Paul est d'accord avec nous, verset 2. Il dit qu'il opère de le bon sens sous l'influence de toutes sortes de cacophonies par rapport au retour de Jésus. Il semble être au bord un peu de l'hystérie en ce qui concerne ces événements, avec des conséquences graves. On verra cela lorsqu'on arrive au chapitre 3, à un point où il devenait paresseux, il ne voulait pas plus travailler, il voulait simplement dépendre des autres parce qu'ils estimaient probablement que voilà, il n'y avait plus rien à faire. Donc Paul, il doit intervenir ici sur ce sujet pour les encourager à, verset 2, ne pas être séduit, ne vous laissez pas promptement ébranler, dit-il, dans votre bon sens. Verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Et ensuite, en tant que bon enseignant, il prend le temps de les rappeler de certaines choses qu'il leur a déjà dit au sujet de la fin des temps. Et c'est vrai, tout n'est pas super facile à comprendre. Mais en partie, dans ce chapitre, c'est parce que nous avons l'équivalent, si vous voulez, d'un échange WhatsApp. Et nous voyons le côté à droite, le côté que vous vous écrivez, le côté en vert. Mais vous ne voyez pas le côté à gauche de l'écran, le côté en blanc que les autres ont écrit. Donc, nous voyons ce que Paul a écrit, mais nous ne voyons pas ce que Paul a échangé déjà précédemment avec eux et ce qu'eux, ils avaient comme questionnement. Je pense que cela contribue à la difficulté sur certains de ces détails. Mais nous pouvons être sûrs qu'eux, ils avaient bien compris ce que Paul disait à propos de ces différentes choses. Est-ce que nous avons suffisamment, quoi qu'il en soit, dans ce chapitre, pour comprendre l'essentiel? Et en gros, Paul dit que nous savons que le jour du Seigneur n'est pas venu encore, car il y a deux événements qui doivent encore avoir lieu. Verset 3. Il faut qu'auparavant, l'apostasie soit arrivée. Et deuxièmement, il faut que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. L'apostasie, première chose alors, c'est une traduction littérale du mot qui se trouve en grec, et cela signifie, comme dit la traduction du Semeur, le grand rejet de Dieu, un détournement majeur, massif du Dieu de la Bible. S'agira-t-il de l'apostasie de la part des chrétiens ou plutôt de la persécution de la part des non-croyants? Je pense que nous allons voir les deux. Une rébellion catastrophique contre Dieu, contre son peuple, de ceux du dehors de l'Église, mais également un détournement de Dieu de la part de ceux du dedans. Car retenir la foi dans un tel contexte catastrophique et Dieu sera extrêmement coûteux. On se souvient ici des paroles de Jésus, Matthieu chapitre 24. Il disait « Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc oui, opposition de la part de l'extérieur, mais refroidissement de la part de ceux qui sont à l'intérieur, tellement ce serait dur ces jours à venir. Ça, c'est le premier événement, l'apostasie. Mais le deuxième événement, c'est lequel? La parution de l'homme impie. Cet homme est nommé ainsi au verset 3 de notre texte, également au verset 9 de notre texte. Ce mot signifie, de manière littérale, l'homme anti-loi. Il s'oppose à toute loi au-dessus de lui. Voilà pourquoi on l'appelle parfois, dans différentes traductions, l'homme de péché, l'homme de la révolte. verset 4, il est l'adversaire qui s'élève au-dessous de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et il se fait passer lui-même pour Dieu. Quelle arrogance de la part de cet homme. Alors, si nous connaissons un tout petit peu les récits bibliques, nous allons savoir probablement que le livre de Daniel, la deuxième moitié du livre de Daniel, prophétisait à propos d'un tel homme. Au chapitre 11, les versets 36 à 37, verset 31 aussi, dit que cet homme, avec ses troupes, souilleront le sanctuaire. Ils feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination de dévastation. Donc c'est une prophétie par rapport à un personnage, à l'époque de Daniel, qui devait encore venir. Et cette prophétie désignait en premier lieu un dirigeant puissant du deuxième siècle avant Jésus-Christ, Antiochus. Numéro 4, apparemment. Et lui, c'est connu qu'il a introduit une idole de Zeus dans le temple de Jérusalem après avoir sacrifié un porc sur l'autel, à l'encontre de toutes les lois de Dieu de l'Ancien Testament. C'est une horreur abominable. Donc d'abord, cela a eu lieu avant la venue de Jésus lui-même. Mais ensuite, Jésus, de nouveau, Matthieu chapitre 24, parlait également de cet homme à venir. Verset 15 de Matthieu 24 nous dit « Vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint. » Et dans ce contexte, Jésus, lorsqu'il parle, il parle surtout à ce stade-là des événements autour du saccage de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, toujours dans la génération de ceux qui écoutaient Jésus à ce moment-là. Mais encore une fois, ce qui s'est passé à ce moment-là n'était pas encore la fin. Non, cet homme dont Daniel avait prophétisé devient donc dans la Bible un type d'un accomplissement encore plus fort qui doit encore venir. Verset 4 nous dit que cet homme va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Alors s'agit-il ici le temple de Jérusalem encore à venir qui doit être rebâti? Alors certains diraient oui à cela. D'autres diraient qu'ici, Paul désigne le temple comme étant l'Église de Jésus-Christ. Mais je pense que Paul évoque le langage de ce type, de cet homme impie, et ce type donnera suite à une réalité plus terrible de ce que nous avons connu jusque-là. Et donc, les détails de l'accomplissement encore à venir restent obscurs pour nous. Cet homme s'installera dans la place habituellement réservée pour Dieu. Oui. Et la persécution qui proviendra de son règne sera quasi insupportable. Selon Daniel, chapitre 12, un temps d'affliction tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent. Alors, savons-nous l'identité de cet homme? Non, il est encore à venir, cet homme. Un type tout puissant. Mais derrière cet homme, bien entendu, il y a Satan, l'ennemi du peuple de Dieu, l'ennemi de Dieu, le père des mensonges. Car verset 9 de notre texte, l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Ce n'est pas que les signes et les prodiges ne seront donc pas authentiques, ce n'est pas ça ce qu'il veut dire. Il aura cet homme, bel et bien une puissance diabolique, mais de tels signes seront trompeurs, car ils auront pour conséquence de détourner des hommes du vrai Dieu pour que les hommes suivent un autre Dieu. Encore une fois, Jésus avait averti que cela aura lieu. Matthieu chapitre 24. Verset 24, il dit « Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. » Cet homme donc diabolique, puissant, qui se prendra pour Dieu, c'est un homme encore à venir. Et bien sûr, au cours de notre histoire, nous avons vu des candidats qui se sont présentés pour être cet homme-là. Le roi Hérode, déjà dans le récit de Actes, Actes chapitre 12, il reçoit l'adoration qui est réservée pour Dieu. Il tombe ensuite sous le jugement de Dieu. Mais après, nous avons désigné souvent des empereurs romains avant Constantin. Après Constantin, quasi chaque opposant de la chrétienté a été proposé, y compris Mohammed, lors de son temps. Ensuite, dans l'Église, Luther avait proposé le pape comme étant l'homme impie. Et bien entendu, le pape lui avait retourné le compliment. Plus proche de notre ère, les noms de Hitler ou de Staline ou de Mao Tse-tung, pour nommer rien que trois monstres de notre passé, ont tous fait preuve à un moment donné de quelques caractéristiques de l'homme impie. Il y a eu également des gourous spirituels qui ont entraîné des personnes à la mort dans un dévouement aveugle, même s'il s'agissait des personnes intelligentes. Moi, je me souviens toujours, dans les années 80, David Koresh et le siège à Waco, où il a entraîné presque une centaine de personnes à mourir plutôt que de lâcher l'enseignement de ce gourou. Mais, force est de constater que la fin n'est pas encore là. Donc cela nous met en garde, chers frères et sœurs, de désigner trop vite quelqu'un de notre époque comme étant l'homme impie. Mais bien sûr, chaque génération chrétienne qui souffre voit des types, des modèles de cet homme impie encore à venir. Je pense que c'est dans ce sens-là que Paul dit, verset 7, que déjà le mystère de l'iniquité, c'est le même mot ici, anti-loi, impiété, est à l'œuvre, déjà. De même que l'apôtre Jean, dans ses épîtres, disait que l'antichrist viendra, mais que déjà il y a plusieurs antichrists. Nous pouvons donc également nous dire que les traits de caractère de cet homme impie se voient d'une génération à une autre, encore à l'œuvre parmi nous. Notre Église, peut-être vous avez suivi notre culte il y a quelques semaines sur l'œuvre de Portes ouvertes. Ben, nous prions, et c'est dans notre document virtuel de prière, pour quatre chrétiens, quatre personnes emprisonnés pour leur foi dans différents pays, rien que parce que ces personnes sont des chrétiens. Pakistan, Iran, Érythrée et la Chine. La persécution est encore rude dans beaucoup de pays dans ce monde. Et cette persécution devient plus rude aussi en Occident, où nous voyons des gouvernements européens s'enraciner de plus en plus dans une vision de l'être humain qui s'oppose à la vision de l'homme que la Bible nous présente. On pense à la lutte contre l'avortement en Pologne pour le moment où il y a des émeutes à cause de cela. On pense également à de nombreuses personnes qui s'opposent actuellement à une vision chrétienne de l'identité de l'être humain. Ces personnes cherchent à insister que toute vision de l'identité de l'homme qui pense que ce n'est pas juste d'attacher notre identité à nos désirs sexuels, hétérosexuel, homosexuel, transgenre ou autre, tous ceux qui disent non, ce n'est pas le cas que notre identité doit se définir autour de notre identité sexuelle, nos désirs sexuels, bah, ces personnes doivent se taire, car aujourd'hui, de telles personnes font preuve d'intolérance. Nous ne pouvons plus tolérer de telles personnes. Et comme ils croient que l'identité de quelqu'un qui s'identifie comme un homme, même si une telle personne a le corps d'une femme, comme ils disent bah, l'identité de cette personne est en jeu, ils cherchent sur Twitter, sur les autres réseaux sociaux, dans les films, dans les médias, ils cherchent à peindre le point de vue biblique comme étant un point de vue simplement intolérant, dépassé. C'est puissant, cela. C'est inquiétant pour des chrétiens d'aujourd'hui. Est-ce que nous aurons encore la liberté, même dans notre pays, à maintenir la vision biblique de l'identité de l'homme? Ou serons-nous traités comme des racistes par le simple fait d'insister qu'il y a une différence entre un homme et une femme, physiquement, corporellement, que notre désir sexuel ne définit pas notre identité? C'est faux de dire que nos désirs sexuels donnent notre identité en tant qu'être humain. C'est profondément trompeur pour l'être humain. Mais ô combien cela est fort pour le moment ici en Europe. Combien les gouvernements européens ont peur de la foule qui insiste que nous voyons des choses de cette manière. Alors ça, c'est un exemple de ce que nous pouvons observer comme opposition frontale à la vision biblique que la Bible nous donne de qui est l'homme et de qui est Dieu et comment nous pouvons nous comporter sous le regard de notre Dieu. Mais est-ce pour autant, lorsque nous voyons une telle chose, que la fin est donc là? Est-ce que voilà, c'est la fin qui s'approche maintenant? Je connais un pasteur évangélique en Belgique qui m'a dit en toute sincérité que si ce n'est pas notre génération, la dernière génération avant le retour de Jésus-Christ, c'est certainement l'avant-dernière génération. Il y a eu pour moi trop de ce genre d'erreur pour vouloir suivre une telle proposition. Mais nous pouvons compatir, n'est-ce pas, lorsque quelqu'un dit cela, car nous voyons, oui, peut-être de manière cyclique, comme nous dirait le livre d'Apocalypse, nous voyons des indices de la fin autour de nous, des indices de l'apostasie de l'homme impie. L'apostasie et l'homme impie, nous dit Paul ici, doivent encore apparaître. Paul a l'air de dire que tellement ce serait rude et catastrophique qu'à ce moment-là, nous le saurons. Pour le moment, nous dit Paul, nous sommes encore dans cette période où celui qui le retient n'a pas encore disparu. Encore un détail difficile qui nous échappe, car celui qui le retient, est-ce que quelqu'un ou quelque chose, ça dépend si vous lisez le verset 6 ou si vous lisez le verset 7 ou c'est quelqu'un, ben, ce n'est pas facile à savoir. S'agit-il ici des autorités, des gouvernements qui retiennent le mal par des lois, par les forces d'ordre? S'agit-il des ministres de l'Évangile, parce que nous prêchons l'Évangile et ainsi on ne va pas tous à la dérive et on est retenu du mal dans son extrême? S'agit-il de l'Esprit Saint lui-même? S'agit-il de Dieu simplement? Ou est-ce possible que cela soit l'ange Michel, qui lui, dans le livre de Daniel, dans les trois derniers chapitres du livre de Daniel, est à l'œuvre derrière la scène pour protéger le peuple de Dieu dans la lutte contre les anges des puissances qui persécutent le peuple de Dieu? J'aime cette dernière possibilité, mais nous devons avouer que ce n'est pas certain. Mais ce qui est certain, c'est que tout cela a lieu sous le regard bon et souverain de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. C'est lui qui désigne le temps pour cet homme impie. Il ne se révélera, dit le texte, qu'en son temps. Et que se passera-t-il après, verset 8? Le Seigneur Jésus le détruira par le souffle de sa bouche. Il l'écrasera de son avènement. Car cet homme, nous l'avons déjà lu, c'est le fils de perdition. Oui, le royaume du mal, ce royaume se ressent aujourd'hui dans le présent, se ressentira encore plus fort au moment de la fin. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Ces chrétiens qui souffrent à Thessalonique, son heure de cet homme impie est très courte, très limitée. Elle sera détruite, détruit rien que par le souffle de sa bouche, de la bouche de Dieu. Lorsque Dieu parle, lorsqu'il dit quelque chose, alors la chose a lieu. À la création, Dieu a dit et la chose fut. Le psaume 46, qu'on a prêché il n'y a pas longtemps, verset 6, dit que Dieu fait entendre sa voix et la terre se dissout. Ce n'est pas ainsi, chers amis, avec nos mots. Parfois, nous avons du mal à capter ceci parce que nos propres mots ne sont pas aussi puissants que cela. Que le vaccin soit là demain, que mes enfants font ce que je leur dis. On lutte avec le fait que nos mots n'ont pas autorité pour accomplir notre volonté. Mais ici, nous avons affaire à quelqu'un qui peut acter sa volonté. Faut-il de l'aide d'une dizaine de super-héros à tour de rôle pour vaincre cet homme impie? Une bataille qui dure pour des jours et des jours. Non, il est vaincu comment? Par le souffle de sa bouche, la bouche de Jésus-Christ. Je pense à la proche de Noël, où nous fêtons Jésus tout petit, un bébé qui est venu sur terre. Nous devons, oui, retenir cette réalité en tête, que Jésus est puissant, tellement puissant que par le souffle de sa bouche, il vaincra cet homme impie. Donc voici deux événements qui doivent venir, l'arrivée de l'apostasie et la parution de l'homme impie. Mais j'aimerais terminer, si vous voulez bien, avec deux exhortations qui sont liées à l'œuvre de l'homme impie. Mais ce sont des exhortations qui ont de l'application pour nous, même si nous vivons lors d'une époque autre que celle du retour de Jésus-Christ. Car qu'est-ce qui caractérisera l'œuvre de cet homme impie? C'est que verset 10, il arrivera à séduire avec toutes les séductions de l'injustice, du mal. Verset 12, ceux qui lui auront suivi ont pris plaisir à l'injustice. Voyez-vous cela? Ce n'est pas simplement donc que ces personnes font de l'injustice. Ce qu'ils font, le mal, ils pêchent. Oui, non, ils le feront car ils veulent le faire, car ils croient qu'une telle voie est la voie de l'épanouissement, la voie de la joie, la voie qui correspond à nos désirs. Agir de la sorte, le verset 11 nous avertit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. C'est terrible, ce jugement-là. Ce n'est pas que Dieu fait cela donc à des innocents. Non, le fait d'être aveuglé, ça fait preuve du jugement de Dieu sur ceux qui ont rejeté Dieu, ont suivi d'autres plaisirs que la vérité en Christ. Rejeter Dieu, et il finira en nous livrant à ce que nous désirons. Prendre plaisir donc à l'injustice, c'est poursuivre une voie qui mène au rejet éternel, le châtiment éternel dont nous avons vu au chapitre 1. Alors pourquoi donc tout un paragraphe aussi détaillé pour parler de ces différents événements aux Thessaloniques? Car le vrai défi pour eux et pour nous n'est pas de savoir les détails de qui viendra et quand est-ce qu'il viendra lors du retour de Christ. Non, le défi, c'est de ne pas se laisser séduire par ces choses. Comment sommes-nous séduits par notre tendance à ne pas croire à la vérité, mais à l'injustice? Pas croire dans le Dieu de la vérité, mais dans le Dieu de l'impiété, Dieu minuscule. Les derniers temps sont caractérisés par un amour pour l'injustice. Cela est plus attirant que la vérité. L'apostasie, la grande séduction auront lieu car les hommes ressentiront plus de plaisir à l'injustice qu'à la vérité. Il faut être conscient de cela, chers amis. Il faut donc veiller à cela, car nous sommes, nous, dans une époque où le message central de ce que nous entendons autour de nous, c'est de suivre nos ressentis. Faire ce qui te rend heureux est le message que nous entendons. Poursuivre les désirs de ton cœur. Plus rien ne me freine. C'est ça ce que je viens de voir sur une publicité sur Black Friday en venant ici à l'église ce matin. Tu veux dépenser une telle somme pour quelque chose, même si cela est au-delà de tes moyens? Vas-y, on vous donnera le crédit, peu importe. Tu veux te divertir sur YouTube pendant la nuit, même si cela vous rendra grincheux le lendemain? Vas-y. Et d'ailleurs, j'ai la vidéo suivante à vous recommander par la suite. Tu veux parler derrière le dos d'un ami, car cela vous fera plaisir de le voir descendre un peu aux yeux d'autres personnes? Vas-y, car on dirait que tu avais besoin de te décharger quand même un petit peu. Tu veux revenir sur tes promesses d'être fidèle à quelqu'un pour toute votre vie? Vas-y, car ce qui est important, c'est d'être heureux. Ici, dans le présent, non? Tu veux croire que tu es un homme, même si tu es une femme? Vas-y, car il ne faut pas nier ce que tu ressens. Tu veux penser le mal de l'autre, chercher à te venger d'une manière ou d'une autre? Vas-y, car cela vous satisfera. Tu veux mettre fin à la vie humaine dans le ventre de sa mère? Vas-y. Quand c'est encore après tout. Tu veux travailler à un point où tu négliges d'autres responsabilités dans ta famille, dans ton église? Vas-y. Parce que ce qui compte, c'est ta carrière et combien tu gagnes. Tu veux travailler même en noir? Mais vas-y. Ce n'est pas comme si les autres ne font pas aussi. Le danger, chers amis, est là pour nous aussi, n'est-ce pas? Ne prenez donc pas plaisir à l'injustice. Nous ne pouvons pas nous arrêter de prendre plaisir à l'injustice si, en même temps, nous ne prenons pas plaisir à la vérité. Vous voyez cela au verset 10 et 12, l'homme impie séduit avec toutes les séductions de l'injustice. Comment? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas accueilli un amour pour la vérité. Verset 12, ils n'ont pas cru à la vérité. Oui, au lieu de chérir la vérité, ils se sont détournés vers ces séductions. Au lieu de chercher plaisir dans l'injustice, nous devons chercher ce plaisir dans la vérité. Il faut un amour supérieur pour la vérité, qui chérit la vérité, pour que nous ne soyons pas attirés vers l'injustice. Ce n'est que cela qui nous donnera la force de faire face à cette tribulation qui va venir. Jésus, une dernière fois en Matthieu 24, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'en est-il donc de notre amour? Où plaçons-nous notre amour? Dans la vérité ou dans les choses de ce monde? Il faut donc, chers amis, creuser la vérité. Il faut prendre l'un de ces trois livres, par exemple, que Benjamin nous a proposé ce matin, ce Noël-ci, pour avoir une haute estime pour la vérité de Dieu, pour la bonté de Dieu, pour la gloire de Dieu, de sauver, lorsque nous croyons en la vérité, ceux qui se tournent vers Christ parce que Christ s'est donné pour nous. Il y a, les amis, le danger du confinement pour nous, de croire que pendant plusieurs mois, c'est, en quelque sorte, c'est OK de laisser à côté la vérité. Bah, l'Église ne se réunit pas, alors que faisons-nous? Bah, on met ça de côté et on verra ce que ça donne d'ici quelques mois. Forcément, vous ne faites pas ça parce que vous êtes en train de suivre cette émission. Mais en même temps, n'est-ce pas, c'est un danger de devoir nous efforcer à assister à une réunion de prière, à un enseignement biblique ou quoi que ce soit d'autre. Parce que d'ici là, hein, nous sommes pris par nos écrans, par le plaisir à court terme de ce qu'on voit, une vidéo marrante, une opinion politique qui nous attire, la prochaine nouvelle du virus. Toutes ces choses nous attirent et du coup, on trouve que c'est plus difficile de nous concentrer sur ce trésor, cette vérité qui est coûteuse, mais à plus long terme, combien plus satisfaisant. Hier, chers amis, nous avons lu dans le plan de lecture où nous vous avons proposé encore quelques versets du psaume 119 et c'est là où je termine. « Il est bon, nous a dit le psalmiste, pour moi d'être affligé, humilié, afin de quoi ? Afin de pouvoir regarder la prochaine série Netflix ? Afin de faire encore de bonnes balades dans les environs ? Dans la nature, afin de pouvoir profiter davantage de notre confinement pour pouvoir faire des achats qui nous arrangent. Non, afin d'apprendre tes prescriptions, nous a dit le psalmiste. Que nous voyons donc ces moments d'affliction comme une occasion de découvrir, chers amis, la profondeur de la bonté de Dieu, de faire nos délices de sa loi. C'est ainsi que nous pouvons affirmer de bon cœur, le verset 72 du psaume 119. « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Prions. Peut-être, Seigneur, nous sommes troublés d'entendre parler de l'apostasie, de l'homme impie, de la difficulté de la persévérance chrétienne. Nous ne voulons pas être naïfs par rapport au coût de la foi, au danger qui existe par rapport à notre foi, à notre tendance à primer le plaisir dans le court terme plutôt que la vérité. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous encourager toutefois par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, par la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ, par la vérité qui se trouve en Jésus-Christ, dans nous en tant que ton peuple, de puiser encore plus les richesses de notre espérance chrétienne, de ne pas être donc perturbés, mais d'être ceux qui prennent plaisir dans ta loi, dans ta parole. Accompagne-nous tout au long de ce confinement, nous te prions, Seigneur, au nom précieux de Jésus. Amen.